Jean-Charles de Coninck, bonjour.
Bonjour Didier, comment
Vous êtes le
allez-vous?
président du directoire de Generics Group. On va parler avec vous de vos résultats semestriels et puis des perspectives. Qu'est-ce qui a été important pour vous sur ce semestre? Ça a pu être une année mouvementée en 2020. 2021, il y aurait eu encore pas mal de questions économiques pour Generics Group. Qu'est-ce que vous en dites?
Sur le premier semestre, déjà, on a quasiment doublé notre prise de commande par rapport à l'année dernière. Et on a fait plus 72% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 2019-2020. Donc, une croissance importante de nouvelles prises de commandes. Donc, on a actuellement, et depuis le début de notre année fiscale, une activité commerciale et une animation commerciale très forte actuellement. Donc, je crois que c'est un des faits marquants de ce début d'année, de ce premier semestre. Le deuxième élément aussi, c'est nos investissements qu'on mène en recherche et développement. Vous savez comme moi, Didier, que cette crise, elle a cristallisé beaucoup de retard, d'une certaine manière, ou de prise de conscience chez nos clients et dans notre marché de l'importance de la supply chain, de la nécessité d'accélérer les transformations de la supply chain, tant dans des domaines de l'approvisionnement que dans des domaines du modèle proprement dit, de la relation client et du delivery au quotidien. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui une très forte demande du marché et nous sommes face à un pipe comme on dit vulgairement dans notre métier, un pipe d'opportunités très très importantes. Et pour nous, c'est une des préoccupations de tous les jours, c'est de répondre avec discernement, qualité, à l'ensemble de nos clients de nos prospects pour pouvoir les aider dans la transformation de la supply chain qu'ils sont en train d'opérer. Et donc, c'est une forte activité que nous connaissons depuis maintenant plus de 6 mois.
Justement, entre ce qui s'est passé en 2020 avec ce basculement hein, rapide dans le e-commerce, on va dire, et puis ce boom qu'il y a pu y avoir, et puis après, peut-être un retour à une situation plus normale. Est-ce que vous avez vu justement ces évolutions de flux? Notamment certaines foncières me disaient récemment, ben, on a retrouvé aussi le commerce de proximité faut bien fonctionner. Vous qui voyez justement tous ces flux, comment vous avez analysé ce qui s'est passé?
Alors, on a vu tout d'abord des flux de e-commerce exploser et qui continuent à exploser, puisqu'en fait, on a eu certains de nos clients qui sont passés de quelques points de volume en e-commerce à plus parfois 35-40% de leur volume. C'était des explosions en termes de flux. Ces flux restent les mêmes actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un avant et un après-crise. Il y a eu un avant. Et puis maintenant, quelque chose qui plutôt continue à être à peu près sur les mêmes typologies de volume, c'est-à-dire une croissance des volumes de commerce électronique, que ce soit dans le domaine du consommateur, que ce soit dans le domaine aussi de l'industrie et en tout cas de l'activité B2B. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des grosses transformations qui sont en train d'être opérées sur 3 secteurs principalement dans la supply. Le premier concerne les approvisionnements, où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités autour de la refonte des organisations d'approvisionnement. Le deuxième sujet touche le transport, où là aussi, il y a énormément de transformation du transport, pour une raison qui est simple, c'est que nous avions préalablement des modèles de transport très planifiés, très organisés, très structurés. Et comme on est en train de traiter de plus en plus de commandes qui sont dans des domaines beaucoup plus erratiques, d'une certaine manière, on est moins dans la prévision et donc plus dans la réactivité, dans l'agilité. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de dossiers autour de la transformation des organisations et des modèles de transport. Le troisième sujet touche directement ce qu'on appelle dans notre jargon l'intralogistique, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de préparer les commandes. Eh bien, là, on a très clairement un sujet. Avec différentes typologies de contraintes. La première, c'est une augmentation importante des volumes. Quand on passe de quelques points de e-commerce à 35 ou 40%, eh bien, tout simplement, les organisations ne suivent pas. Il faut automatiser, il faut robotiser, il faut passer d'une organisation un peu basée sur du personnel, sur du labor, vers de plus en plus une organisation, on va dire, industrielle, dans le sens où les entrepôts étaient préalablement des centres de stockage, ils sont de plus en plus des centres, des usines à préparer des colis, ce qui est complètement différent en termes de moyens, en termes d'organisation, en termes de surface. Donc, il y a une grosse transformation dans ce domaine-là. Puis le dernier point, c'est que les volumes explosent. Il faut aussi des moyens de piloter l'ensemble de ces flux pour organiser la synchronisation de l'ensemble des acteurs de la supply chain. Et donc là, à travers les flux dématérialisés, pour qu'on puisse tenir un élément qui est essentiel aujourd'hui, c'est tenir la promesse de nos clients à leurs propres clients. Et c'est très clairement pour cette raison que Genaïx a décidé, en avril 2020, d'investir beaucoup plus lourdement dans les années qui viennent en recherche et développement pour faire évoluer et pour innover sur de nouveaux modèles les évolutions nécessaires à la gestion de ces transformations de la supply chain qui étaient jusqu'à maintenant pour beaucoup de nos clients et beaucoup d'acteurs un mal nécessaire. La supply chain, elle est devenue aujourd'hui un élément majeur de la transformation et de la stratégie d'entreprise.
Oui, un vrai au cœur de la stratégie, ça
Oui.
change effectivement la donne. Alors, vous avez dit, hein, malgré cette belle performance commerciale que vous avez mentionnée, que par exemple aux États-Unis, vous souhaiteriez faire plus. Donc, il y a à la fois une nomination et sur ce marché-là, il y a un potentiel plus important pour vous.
Absolument. Je sais que beaucoup de gens seraient favorables et seraient satisfaits. 22% de croissance sur le premier trimestre sur un pays comme le Nord-Amérique. Générique, c'est encore un petit acteur sur Nord-Amérique. Nous avons de vraies ambitions sur ce marché-là et nous avons décidé, dans le courant de ce semestre, de transformer notre gouvernance sur notre direction générale et sur nos organisations commerciales et de délivrer aux États-Unis pour augmenter notre pénétration de ce marché, qui, comme vous le savez, Didier, est pour nous un marché qui représente 48% du marché mondial et qu'il ne faut absolument pas négliger en termes de pénétration. Donc, notre stratégie est claire. Notre stratégie, c'est de renforcer notre position et nos positions sur l'Europe, qui est un marché important en général pour la supply chain, et pénétrer de plus en plus fortement et de générer beaucoup plus de croissance encore sur la partie nord-américaine.
Donc voilà, ça peut peut-être conduire à un peu moins de croissance hein, sur l'ensemble de l'exercice que vous avez souligné, mais ça ne remet pas en cause, bien entendu, la
Du
croissance à
tout,
moyen terme.
du tout. On sera sur une tendance de croissance qui sera un peu inférieure à deux chiffres. Voilà, les deux chiffres étant plutôt asymptotiques pour nous sur cette année. Tout en maintenant, bien évidemment, malgré un investissement important en innovation, un niveau de rentabilité qui reste au moins constant par rapport à l'année dernière, sachant que cet investissement, elle va, en termes de pourcentage, va diminuer et bien sûr, par contre, va être plus ou moins sacralisé en termes de volume, et c'est-à-dire en termes de budget, en termes de nombre d'euros que nous allons continuer à investir en innovation sur les prochaines années.
Votre conviction pour terminer, c'est que finalement ce e-commerce qu'on a vu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, exploser en 2020, s'est installé dans notre univers et
Oui.
désormais, voilà, il est un mix entre ce qu'on peut faire en physique, mais il fait partie,
Oui.
voilà, clairement
Absolument.
de
Alors
notre
ça,
quotidien.
c'est vrai dans le domaine de la consommation, où on reste sur un e-commerce qui va continuer à croître, et puis le multicanal ou pluricanal qui est en train de se mettre en place, donc là, une complexité beaucoup plus forte aussi des moyens de supply chain et des organisations, et donc là, il faut les accompagner fortement, parce que beaucoup de monde, nous avons tous parlé beaucoup d'omnicanal, depuis de nombreuses années, on entend parler. Je pense qu'on a été confronté très clairement à la réalité de l'omnicanalité ces dernières années ou ces derniers mois. Et donc, beaucoup de nos organisations ont maintenu quand même un delivery de bonne qualité avec beaucoup de difficultés. Elles sont aujourd'hui en train de s'organiser afin de faire et de mettre en place cette omnicanalité avec des degrés de performance et des degrés de coût qui permettent de continuer à déployer non seulement la satisfaction du client et le délivrer au quotidien, mais aussi de garantir des coûts qui soient acceptables par rapport à la profitabilité de toutes les organisations de nos clients.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, Jean-Charles de Coninck.
Je vous en prie, au plaisir et à très bientôt.